Sur Radio Primitive, on a le plaisir ce midi d'accueillir Elisabeth Chauvin, responsable du service patrimoine, et Maxence Julien, chargé de collection au Musée des Beaux-Arts. Ils sont tous les deux co-commissaires. On aura pas mal de choses à aborder ensemble. Déjà, je vous dis bonjour.
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 Alors, on va parler de ce qui se passe du côté des musées rémois. Il y a pas mal de choses en ce moment, il y a pas mal de mouvements, pas mal de constructions, reconstructions également, et puis surtout les musées qui sont gratuits jusqu'au 31 mars. Alors, est-ce que, du coup, chacun, vous pouvez éventuellement nous parler d'une exposition, de quelque chose à vraiment découvrir ces prochains jours jusqu'au 31 mars, musée gratuit de la ville de Reims?
Cette année, comme vous le soulignez, les musées de la ville de Reims, en association donc avec les élus et le maire de la ville de Reims, proposent la gratuité pour l'ensemble des visiteurs, pour l'ensemble des musées et des manifestations. C'est une initiative qui a déjà été plébiscitée les années précédentes, et donc nous reconduisons cette opération pour que les Rémois, les Rémoises et tous ceux qui viennent visiter la ville puissent découvrir à leur rythme, venir et revenir au sein des différentes collections et profiter donc de la pluralité des événements que nous proposons, en particulier au musée Saint-Remy, notamment la fin de l'exposition Clovis, une exposition ludique et immersive qui a rencontré un vif succès et donc que je recommande à l'attention de tous les auditeurs.
On aura l'occasion d'ailleurs également d'accueillir Bénédicte Hernu un petit peu plus tard, du coup, qui va notamment pouvoir nous parler de ça également, de ces expositions. Alors, il y a également cette année une thématique finalement concernant ces musées. C'est laquelle ?
En fait, c'est le centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui avait lieu en 1925 à Paris. Et en fait, à ce moment-là, il y avait la présentation d'un petit pavillon avec une porte d'une bibliothèque de Reims. Et c'est celle que nous avons encore aujourd'hui à Carnegie. Donc, hormis cela, bien sûr, il y avait de nombreux pavillons, le village français, etc., qui présentaient en fait les dernières réalisations. Donc, c'était un lieu extrêmement couru à ce moment-là, qui a eu un grand retentissement et qui a donné son nom à l'art déco, puisqu'il n'était pas nommé comme cela précédemment. Cette année, on a voulu également que ce soit une année placée sous le sceau de l'art déco, puisque Reims, ayant été détruite pendant la Première Guerre mondiale et reconstruite, a bien entendu intégré ce nouveau style qui avait émergé un petit peu avant, parce que c'est jamais une coupure franche dans les styles architecturaux ou décoratifs, mais qui a imprégné vraiment cette reconstruction rémoise.
C'est vrai qu'on a eu l'occasion de l'évoquer un petit peu avec Marion Grange aussi précédemment. D'ailleurs, ça a retrouvé, je fais la petite promo sur le site internet Radio Primitive, de ce qu'est l'art déco. Finalement, c'est assez difficile de pouvoir le décrire. Ça, c'est...
C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est vraiment à la croisée de plein de mouvements. Il y a le mouvement moderne aussi qui est en train d'émerger. Bien souvent, on l'oppose à l'art nouveau, mais on se rend compte aussi qu'il y a des éléments art nouveau dans la reconstruction. La reconstruction, c'est pas séparé non plus des villes construite art déco. Enfin, par exemple, à Marseille, il y a beaucoup de quartiers art déco. Bon, la ville n'a pas été détruite, mais voilà, on voit que c'est une mouvance aussi. C'est un air du temps, qui se met en place à ce moment-là et qui a vraiment émergé au début du XXe siècle, autour des architectes, même de la fin du XIXe avec le rationalisme, etc. Mais donc, c'est pas purement après la Première Guerre que ça se met en place, mais ça prend naissance même avant, et on se rend compte que sur le territoire de Reims, par exemple, la cité du chemin vert, c'est un projet aussi d'avant-guerre. Donc, tout ça est compliqué, en fait, à temporaliser et à donner un temps précis. Et puis aussi, la modernité qui arrive, on le voit ici sur Reims avec les Halles du Boulingrin. Bon, c'est un peu plus tardif, mais où on va intégrer pleinement le béton armé, qui naît au début du XXe siècle. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est jamais de dire c'est les années 20. Non, c'est vraiment le premier quart du XXe siècle, on va dire, qui est identifié dans ce style-là.
Comme le dit Elisabeth, c'est vrai que cette exposition donc, de 1925 est un moment assez fondateur. Elle résonne avec l'histoire de la ville, puisqu'on le verra par la suite, la ville détruite et reconstruite en ces années 20. Et en ce sens, cette exposition parisienne est une sorte de manifeste. D'une part, c'est une exposition universelle, donc c'est-à-dire effectivement, c'est un des très grands temps forts pour la France, pour Paris, pour montrer ce côté de savoir-faire français, une vitrine de ce qui se fait de mieux à l'époque, effectivement, donc en termes d'art de vivre, en termes de technologie, de technique, de tous les aspects, effectivement, de la création et donc de la vie moderne, avec cette idée des arts industriels et modernes, donc appliqués également à la vie quotidienne. Donc on va embrasser toute une époque, finalement, depuis simplement l'ornement jusqu'aux objets les plus fonctionnels du quotidien, l'habitat, le mobilier, ainsi de suite. C'est quelque chose aussi qui résonne donc avec les collections du Musée des Beaux-Arts, puisqu'effectivement, avec cette histoire de la ville, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, le musée a recentré, enfin, en tout cas valorise dans ses collections et son parcours permanent, et ce sera le cas dans le futur musée rénové et agrandi, cette période de l'entre-deux-guerres, effectivement, donc on va dire des années 1919 jusqu'aux années quasiment 40, hein, à travers cet art déco que vous décriviez comme un art de la synthèse, un art qui fait la part belle à l'ornement, parfois géométrisé, stylisé, c'est-à-dire effectivement on va un tout petit peu s'éloigner du réel pour l'interpréter, et cela dans l'ensemble des domaines de la création, depuis les arts les plus traditionnels, si je puis dire, la peinture, la sculpture, la céramique, le vitrail, avec la ferronnerie également, et donc avec à la fois une réinterprétation des savoir-faire et des styles antérieurs, qui avaient fait aussi les beaux jours de la France, et également avec une idée d'un art total, donc qui va investir l'ensemble des champs de la création et fédérer autour des productions tous les corps de métier, tous les artistes, avec parfois des chefs d'orchestre que sont les décorateurs ensembliers notamment, et qui vont avoir une vision d'ensemble. C'est un moment aussi, je dirais, charnière, où finalement on passe de quelques pièces les plus précieuses réalisées sur commande à également la question du commerce et de la diffusion de ces mêmes productions pour les rendre les plus accessibles possibles, un petit peu à la manière de ce qui avait été initié durant la période Art Nouveau. Et donc, en ce sens, cette exposition, elle est tout à fait fondamentale, parce que c'est vraiment un des grands temps forts, une des grandes expositions majeures pour la France en ce XXe siècle. Et également, ça va être aussi cette synthèse de l'ensemble des productions et avec cette idée de rendre aussi accessibles ces pièces à l'ensemble des habitants, à la fois sur le territoire national et international, parce qu'effectivement, l'art déco est un mouvement qui aussi, je dirais, s'internationalise et va se diffuser très rapidement. Et en ce sens, cette exposition parisienne va faire date de ce point de vue-là.
Et donc là, ça va faire du coup énormément de choses finalement, parce que c'est une période qui a été quand même courte, la période Art Déco. C'est...
Ben, en fait, même si on peut là pas aussi, on ne peut pas l'arrêter non plus, oui, à 1925, puisque voilà, ben, c'est là où elle prend naissance officiellement. Et ensuite, dans les années 30, eh bien, il y aura aussi des références à l'Art Déco, et même au-delà, puisque dans les années 80... on fera du néo-art déco. Des architectes vont s'emparer...
Après, tout découle un petit peu, finalement, de l'art déco.
C'est exactement ça. C'est comment on réintègre l'ornement, par exemple, dans l'architecture. C'est plutôt ça, en fait, qui va se prolonger, même jusqu'à nous encore. Il y a toujours des architectes qui font référence à l'art déco. Et d'ailleurs, un colloque très prochainement aura lieu qui montrera justement le lien entre ces différentes périodes et le lien avec ce style que l'on retrouve encore aujourd'hui.
Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça a permis d'ouvrir finalement une discipline artistique à plein de personnes qui se pensaient peut-être pas capables, ou en tout cas au-delà d'être capables, mais en tout cas qui ne pensaient pas avoir la lumière pour pouvoir éventuellement faire des choses dans la ville ou ailleurs. Enfin, ça a permis d'ouvrir vraiment un plus large public.
Bah, disons que la reconstruction, c'est vrai que c'est pas uniquement le fait d'architecte. L'architecte en chef, etc., ce sera plus dans les années 50. Mais dans ces années 20, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'ensembliers, ce que disait Maxence à l'instant, qui vont intervenir aussi sur le chantier de reconstruction. Ce qui fait qu'il y a qu'une petite portion, en fait, d'architectes. Mais voilà, c'est aussi un foisonnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus... que l'architecture, il y a tous les ornements qui interviennent, décorateurs, ferronnerie d'art, maître verrier, Jacques Simon intervient énormément dans des vitraux civils durant la reconstruction, stucateurs, etc. Ils interviennent au même titre que l'architecte. C'est vraiment cet art total où toutes les composantes ont finalement autant de valeur, entre guillemets, que le bâti, au final.
Et on le voit à Reims et dans d'autres, dans tout le grand nord et nord-est aussi de la France, effectivement profondément affecté par les destructions et qui va se relever également ces mêmes années, où finalement on a différentes sensibilités. Et comme on le disait, effectivement, l'étiquette Art déco peut sembler pratique à poser sur telle ou telle situation, mais dans les faits, il y a une pluralité de sensibilités, une pluralité de styles, et on le voit bien que c'est ce qui fait aussi la richesse de cette période, effectivement, c'est qu'il va y avoir tout un jeu de réinterprétations multiples et variées qui va permettre de refléter, finalement, au-delà d'une esthétique, de ce qu'est un art de vivre, et de l'art de vivre, effectivement, du Paris des années folles, tel qu'on l'imagine, à quelque chose peut-être de plus raisonné, de plus grave, mais qui va s'en inspirer et qui va être immergé dans une époque. Et c'est un petit peu finalement ce qu'on a souhaité montrer à travers les différentes manifestations et en particulier l'exposition 1925-2025, Regard sur la reconstruction au Musée d'Hôtel Le Verger, Maison Ucraft.
Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que vous avez finalement décidé de faire une sorte de réunification de tous les musées en vous disant on a une année pour essayer de mettre en lumière le plus possible ce centenaire. Et comment ça s'est passé, le travail entre chacun des musées, les liens, comment vous avez décidé, nous on va parler plus de telle forme artistique, on va parler plus de tel matériau. Comment ça s'est passé tout ça?
Voilà, c'est les musées, mais aussi en plus généralement, la direction culture et des partenaires extérieurs. C'est-à-dire que c'est les musées, les bibliothèques, les archives, le conservatoire qui ont contribué justement à cette programmation qui est vraiment très riche et qui s'étale sur toute l'année 25, et aussi des partenaires extérieurs c'est assez diversifié. Il va y avoir l'école Blot, par exemple, qui fête son centenaire cette année, qui a toujours ses cartons des années 20 au sein de son école à Clermarais. Je vous encourage à y aller le 30 juin, 1er juillet. Il va y avoir également les flâneries musicales qui vont donner un petit peu la tonalité musicale de cette période en la réinterprétant, bien sûr. Et puis, il va y avoir également l'opéra a déjà réalisé cette programmation, mais il va y avoir... Attendez, je regarde parce que là, du coup...
Il y a un petit fascicule, j'imagine, qui peut être aussi facilement retrouvé sur le site de la ville.
Tout à fait, oui. Et l'hôpital américain, l'hôpital américain fête son centenaire également. Donc, l'American Memorial Hospital, qui a été réalisé ex nihilo à l'extérieur de la ville en reconstruction et qui a fait l'objet, d'un projet par des architectes franco-américains. Donc, c'est vraiment l'amitié franco-américaine, au-delà du mémorial dédié à la mémoire des soldats américains morts sur le front et l'hôpital pour enfants. Mais c'est aussi ce lien, cette amitié franco-américaine qui va naître à ce moment-là et vraiment que l'on retrouve dans les édifices encore aujourd'hui. Donc là, c'est le 30 avril, par exemple, et je vous encourage à y aller. Alors... Il y aura d'autres opérations avec le cinéma Opérins également, pendant les journées du patrimoine, où on aura des films aussi qui évoqueront cette période. Et puis d'autres expositions, parce que là, on revient sur, par exemple, Falala ou Carnegie, les bibliothèques, où on évoquera le motif Art déco, on évoquera autre chose, mais toujours pour montrer ce foisonnement, cette diversité à ce moment-là. Et puis, bien entendu, des visites aussi, visites de l'exposition, notamment au regard sur la reconstruction, croisées avec des visites de ville. Donc, il y a toute une médiation qui se met en place. Et puis, les journées européennes du patrimoine en septembre, où là, on aura aussi beaucoup d'ouvertures exceptionnelles autour de l'art déco.
Comme vous le disiez, effectivement, l'exposition au Musée Le Verger, Hôtel Le Verger, s'inscrit dans ce grand cycle que décrivait Elisabeth. Effectivement, Reims 1925, l'art déco à Reims, folie moderne. Et effectivement, le propos de l'exposition n'est pas apparu, si je puis dire, tout de suite. Enfin, n'a pas été aussi évident que ça. Dans la mesure, effectivement, où il y avait des précédents, notamment en 2019, le musée des Beaux-Arts pour... le musée Hôtel Le Verger avait déjà travaillé un petit peu sur cet aspect à travers une exposition qui s'appelait Reims 1920-1930, le feu de la création. À l'époque, on s'était questionné principalement sur le rôle et la place des artistes dans ce grand élan, cette grande dynamique justement de reconstruction et de faire dialoguer ce qui se passait à l'échelle nationale, donc essentiellement à Paris, avec la volonté de revivifier une création rémoise qui passait par la création de l'Union rémoise des arts décoratifs, avec des architectes, avec des graveurs, avec des peintres, dessinateurs. Et on avait un tout petit peu évoqué le contexte global, si je puis dire. Là, effectivement, avec Elisabeth, le Musée des Beaux-Arts a souhaité s'associer bien évidemment à cet événement et dialoguer avec les autres propositions, donc notamment pour des archives municipales et communautaires de Reims, ou encore également la médiathèque Jean Falala et la bibliothèque Carnegie, pour pouvoir finalement ciseler une proposition qui soit originale et à la fois complémentaire, pour ne pas être justement dans la répétition, mais au contraire montrer cette richesse et cette complémentarité dans l'ensemble des domaines de la création. C'est pour ça que finalement, à l'inverse, je dirais, de Carnegie qui va traiter du motif, de l'ornement et de la forme, et également les archives municipales et communautaires qui vont plutôt, du point de vue d'une exposition virtuelle, revenir sur ce qu'était finalement cette reconstruction du point de vue urbanistique, archivistique. Pour le Musotel de Végeur, on a souhaité s'attacher à cette forme d'ambiance, cette ambiance que l'on décrivait effectivement pour l'exposition de Paris de 1925, en partant finalement d'un fond photographique, enfin deux fonds photographiques au pluriel, si je puis dire, et les faire dialoguer justement ces images d'époque avec des collections des musées et des établissements patrimoniaux rémois, et pas uniquement, et également les faire dialoguer avec des photographies d'aujourd'hui de finalement ces témoignages qui, 100 ans après, sont devenus patrimoine.
Et donc, est-ce qu'il y a, par exemple, il y a un auditeur qui est fan, vous le disiez, de photographie, par exemple, ou alors de peinture. Est-ce qu'il y a un moment où il faut se rendre dans tel musée parce que c'est plus axé sur la photographie ou sur la peinture? Ou est-ce que finalement, chacun des musées, chacun des lieux ont des choses différentes à proposer? Comment ça se passe, en fait? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver dans chacun de ces lieux?
Du point de vue effectivement de la photographie, il faut a priori se rendre au Musée Hôtel Le Vergeur dans le cadre de cette exposition, donc regard sur la reconstruction, puisque justement dans le titre on a cette question du regard, donc à la fois le regard des photographes, le regard des artistes, parce qu'effectivement c'est sur une idée, une proposition avec laquelle est arrivée Elisabeth que l'on a rebondi, puisqu'effectivement on a une très très importante et riche collection conservée donc au musée départemental Albert Kahn, donc qui relève du Conseil général des Hauts-de-Seine 92, qui conserve une collection qui s'appelle, enfin qui a été dénommée les Archives de la planète. En fait, c'est un ensemble immense de photographies, essentiellement en couleur, donc sous la technique dite des autochromes, et également toute une collection de films cinématographiques qui a été constituée assez rapidement, d'une vingtaine d'années, du début des années 1910 aux années 1930, par justement Albert Kahn, qui était un grand financier philanthrope et qui finalement a conçu une sorte de grand projet un peu utopiste, c'est-à-dire de conserver la mémoire de ce qu'étaient à la fois les sociétés et les nations en ce début du XXe siècle, pressentant des changements immenses dans les mœurs, les aspects sociétaux, économiques, urbanistiques, dans tous les domaines de la vie. Et donc, finalement, pour conserver une sorte de mémoire, il a choisi d'utiliser sa fortune pour envoyer de par le monde et partout en France et voilà, dans tous les pays, des opérateurs photographiques et également donc des personnes qui vont filmer le quotidien des populations, qui vont, au-delà de les filmer, c'est-à-dire de faire de belles images, de beaux films, qui vont consigner, décrire de manière scientifique et méthodique, d'un point de vue justement ethnographique et géographique, ce que sont ces populations, quels sont leurs us et coutumes, leurs habitudes, pour figer cette mémoire. Et donc, c'est une collection aujourd'hui qui est d'une richesse incroyable, qui est en partie accessible en ligne sur un portail donc, qui a repris ce nom, les Archives de la planète, et donc dans lequel, effectivement, Elisabeth et moi, nous avons pris plaisir à parcourir l'ensemble de ces ressources pour pouvoir sélectionner une trentaine d'images qui seront donc reproduites, légèrement agrandies dans l'exposition, à la fois pour permettre aux visiteurs d'avoir accès à tous ces détails, à pouvoir observer vraiment la réalité, cette réalité qui était celle effectivement des Rémois qui revenaient dans Reims dans les années 20, et cette Reims qui se reconstruit, qui se transforme très vite et profondément, et sous l'angle également de la couleur, parce qu'effectivement, le principe assez, la caractéristique de ces autochromes, ce sont des photographies en couleur native. Et c'est aussi pour ça que c'est un procédé assez révolutionnaire qui est inventé en 1907. Et c'est aussi pour ça que Albert Kahn choisit ce procédé. C'est finalement pour pouvoir rendre de la manière la plus vivante, tout ce quotidien qui est en train de se transformer, plutôt qu'une photographie noir et blanc qui, finalement, par essence, met un petit peu de distance par rapport au quotidien qu'il note, que nous percevons assez logiquement en couleur.
Voilà. Et ce qui est aussi étonnant, en fait, c'est que l'aspect un peu documentaire de ces clichés entre en résonance aussi avec l'aspect artistique, puisque de manière assez surprenante, on s'est rendu compte que les points de vue étaient parfois les mêmes pour le photographe, donc le reporter, il y avait 4 opérateurs qui sont venus sur Reims, que pour l'artiste. Et donc on peut dire, oui, voilà, il y a une approche effectivement de documenter, de renseigner, mais aussi une approche artistique pour l'opérateur photographique. Et à l'inverse, l'artiste, lui aussi, il y a évidemment son point de vue artistique, mais également une approche mémorielle. Donc c'est vraiment intéressant de croiser ces deux approches et de voir qu'ils convergent dans la volonté aussi de la transmission, de transmettre, je pense, aux générations futures, etc. On est quand même sur une période assez compliqué. Si on le rappelle, on est quand même sur 1500 hectares qui ont été détruits. Sur 14 000 immeubles, 8 000 sont détruits. Il y en a 60 habitables. Donc, c'est un choc, en fait. C'est un traumatisme. Et je pense que, voilà, cette expression du traumatisme, on la retrouve, on la pressent derrière ces interprétations artistiques ou photographiques. Donc c'est ça aussi qu'on voulait approcher, c'est un peu l'intime, le quotidien, pas l'émotionnel parce que c'est compliqué, mais en tous les cas, voilà, de croiser ces regards-là, ça nous semblait important pour essayer de comprendre ou de moins de percevoir au mieux cette période de reconstruction qui est à la fois effectivement foisonnante, mais parfois aussi dramatique. Enfin, on sent derrière, c'est très chargé, c'est lourd, hein, quand on voit effectivement la cathédrale en train de, en cours de restauration, et puis juste à côté des baraques, les baraquements en fait, et des amoncellements de pierres qui se juxtaposent à tout cela, on imagine en fait la dureté du quotidien à cette époque-là. Et on voit aussi que c'est très rapide, hein, puisque sur certains clichés de 1924-1925, les rues sont déjà quasi finalisées en fait. Donc c'est quand même dans le temps très très rapide. Mais de les croiser, de faire ces différentes approches, ça nous permet de mieux le percevoir.
En tout cas, de la manière dont vous le décrivez, je le perçois plutôt comme quelque chose de positif. Voilà, on a les couleurs de l'autochrome, on a en effet le fait que ça a été rapide, que les gens ont voulu marquer ce qui s'est passé parce que ça a été marquant, donc forcément. Mais aussi vraiment, de toute façon, c'est le mot qui ressort à chaque fois, la reconstruction, quoi, de reconstruire, d'essayer de passer à autre chose tout en gardant ce souvenir. Et on parlait justement de cette transmission. Est-ce que ce sont des expositions, est-ce que ce sont des choses qui peuvent être vu avec des enfants, est-ce que il y a quelque chose pour peut-être leur simplifier un petit peu, quelque chose d'organisé pour les aider à mieux comprendre en tout cas.
Les musées multiplient en général les initiatives effectivement à l'attention des différents publics. Donc effectivement, on évoquait la question des visites guidées de l'exposition, des visites flash, là aussi sur des formats assez courts et synthétiques pour avoir quelques clés de compréhension et pouvoir après, selon ses envies et le temps que l'on souhaite y consacrer, pouvoir se confronter aux œuvres. Des questions de visites croisées également entre l'exposition et la ville, pour justement aussi pouvoir finalement sortir des murs du musée, pour pouvoir découvrir finalement ce que les photographies montrent et voir parfois le décalage et le plus souvent justement le parallélisme en fait, le fait que la ville est relativement préservée et que certains des cadrages des années 20 sont tout à fait reconnaissables, identifiables encore aujourd'hui. Et également, ce sur quoi j'aurais aimé insister, c'est un atelier photo, parce que justement, la photo est au cœur de l'exposition, c'est un peu ce fil directeur, à la fois photo des années 20, documentaire, quoique aussi artistique, avec effectivement des cadrages, des poses, on sent qu'il y a une vraie construction et une vraie réflexion sur la proposition. Également les photos donc 100 ans après réalisées par l'inventaire général de la région effectivement Grand Est, dans la mesure où elles participent à la fois à l'étude, la valorisation et la protection de ce patrimoine, de ces architectures et décors mobiliers qui est aujourd'hui devenu patrimoine. Et donc vraiment cette photographie qui est le lien pourra être aussi, je dirais, pratiquée par les visiteurs. Et donc on propose notamment trois dates, le 29 juin, 6 juillet et 13 juillet, un atelier photo avec un artiste, Guillaume Geller, qui va effectivement inviter les participants à pouvoir déambuler et réaliser leur propre photographie dans Reims, donc finalement de leur ville, ou en tout cas de ce qu'ils perçoivent ou de ressentent par rapport à ce contexte de reconstruction. Et donc ça, c'est vrai que c'est tout à fait accessible, je dirais, à chacun à partir de 12 ans pour ceux effectivement qui apprécient la photographie, soit avec leur matériel, soit avec du matériel mis à disposition par l'artiste, et parfois du matériel aussi qui se rapproche des techniques utilisées au début du XXe siècle.
Donc c'est vraiment quelque chose, oui, le but étant de sortir au maximum finalement des murs du musée pour essayer de découvrir en fait ce qui nous entoure et qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir remarquer tout seul parce que la vie fait que on trace notre route, comme on dit. Donc pour ça, pour le coup, va falloir encore patienter pour ce qui est de, en tout cas, regard sur la reconstruction. Le début de l'exposition, c'est le
4 juin et ça s'achève après les Journées Patrimoine, une semaine après, le 28 septembre de cette année. Voilà.
Donc, en attendant, il y a quand même pas mal de choses aussi qui sont organisées en amont. Mmh. Il y avait peut-être des manifestations sur lesquelles vous aviez envie de mettre en lumière ou...
Oui, peut-être les journées d'études qui auront lieu les 5 et 6 juin, donc le lendemain de l'inauguration de l'exposition, en fait, qui permettra aussi de faire intervenir des chercheurs autour de l'art déco rémois à travers des recherches qui ont été faites sur l'hôpital américain, sur le fonds Jacques Simon, enfin Simon Marc en général, hein, parce que c'est plus global, et aussi sur les vitraux civils dans les années 20 et 30. Et également faire le rapprochement entre l'art déco reconstruit et l'art déco plus général avec le cas d'autres villes. Donc on aura Nancy, on aura Marseille qui seront présentées à cette occasion-là. Et puis aussi, en un deuxième volet, tout ce qui est mesures de protection, valorisation, parce que c'est important aussi de parler de cette protection-là et voir en fait ce qui est mis en place dans les Hauts-de-France, par exemple. Je pense qu'ils ont des exemples intéressants à nous présenter, à Verdun également, et puis ici à Reims, avec ce qu'on appelle dans notre jargon le site patrimonial remarquable, plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Donc l'atelier Philippe Prost viendra nous l'expliquer, et puis aussi l'inventaire, parce que c'est un inventaire historique avec un repérage de tout l'existant, hein, qui n'implique pas forcément une protection, mais au moins à un moment T, on a cet inventaire qui est fait sur le centre-ville reconstruit et qui permet justement de mieux le transmettre aux générations futures. Donc voilà, ça c'est 5 et 6 juin, c'est vraiment un moment, je pense, qui pourrait intéresser, qui est ouvert à tous.
Vous pensez qu'on a fait le tour de la question à peu près ?
Après, on ne peut que donner envie. Enfin, en tout cas, oui. On espère avoir donné envie, effectivement, aux auditeurs de pouvoir venir se rendre dans l'exposition et effectivement se confronter à cette proposition et puis toutes les autres propositions dont on a parlé. Et c'est vrai que moi j'insisterai sur cette belle saison, vraiment, je dirais, cette très riche programmation. Qui comprend également un bal aussi, hein, un bal année folle pour le 14 juillet, et remercier l'ensemble de nos partenaires Non, pas de bal.
Il
n'y
a pas de bal pour les 14 juillet.
Il y a un bal, mais c'est pendant les journées du patrimoine.
Ah, pardon. Voilà.
En même temps, c'est vrai que la programmation est tellement riche qu'on peut un petit peu s'y perdre. Quoi. Donc justement, ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver toutes ces informations? J'imagine le site de la ville de
le
Reims.
Le site de la ville de Reims diffuse régulièrement aussi une actualité. Hein, parce que en fait, comme ça balaye toute l'année, en fait, il faut des spots à un moment donné sur des événements. Donc, reviendront régulièrement sur les différents événements qui seront programmés sur cette année-là. Ouais.
Et puis tous les sites patrimoniaux, effectivement, des établissements, les musées de Reims, les bibliothèques Carnegie, les archives municipales et communautaires, effectivement, qui mettent aussi en ligne, hein, rendent accessibles toutes ces ressources que nous convoquons et parmi lesquelles on a dû malheureusement, je dirais, sélectionner quelques-unes d'entre elles. Mais effectivement, c'est un choix très, très difficile. Parce qu'effectivement, on a aussi voilà, une richesse qui montre je dirais, l'ampleur de ce phénomène et à quel point ça résonne au sein de notre collectivité.
Écoutez, je pense que tout a été dit. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, on se retrouve donc très vite.
À bientôt.
Merci, à très bientôt.
Sur Radio Primitive, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Bénédicte Hernu, directrice des musées historiques, les musées de Saint-Rémy, de Fort de la Pompelle ou encore Réédition. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes venue aujourd'hui pour nous parler de l'exposition Art de protéger, la protection du patrimoine en péril. Alors c'est une exposition qui va débuter début octobre. Donc on a encore un petit peu le temps, mais on a décidé de prendre justement ce temps pour pouvoir en parler et puis aussi d'évoquer un petit peu ce qui se passe concernant les musées de la ville de Reims, parce qu'en ce moment il y a pas mal de choses, notamment avec les musées gratuits encore jusqu'au 31 mars.
Oui, exactement, les musées sont gratuits donc jusque fin du mois de mars.
Et donc il y a pas mal d'activités, on peut notamment parler par exemple des activités du musée Saint-Rémy.
Oui, exactement. Donc, on accueille en ce moment toujours, et pour un dernier mois, l'exposition Le Monde de Clovis, l'exposition dont vous êtes le héros. Donc, notamment avec une grosse activité ce dimanche, puisqu'on a une après-midi jeu qui permet en fait d'accueillir au sein du musée un certain nombre d'associations qui vont proposer des jeux, mais des jeux de plateau également. Et on accueille également nos collègues des bibliothèques de Reims. Donc vraiment une grosse après-midi où le jeu est au centre de notre projet pour tout type de public. On pourra également découvrir le rôle du miel à l'époque mérovingienne, d'autant plus que notre volontaire en service civique va vous présenter plus spécifiquement le miel qui est actuellement fabriqué par les abeilles du fort de la Pompelle et que nous présenterons sur site.
Alors c'est juste une présentation de ce miel ou ce sera aussi possible de l'acheter pour à la maison ?
Alors, pas pour dimanche après-midi, mais en tout cas, si les gens veulent passer au fort de la Pompelle, acheter le miel en sortant du musée Saint-Rémy, ça ne pose aucun souci. Et le miel, de toute façon, est en vente actuellement à la boutique du fort de la Pompelle, et ce depuis 3 ans maintenant.
Ok, et vous parliez des jeux, après-midi jeux. Quel style de jeu on va pouvoir retrouver ? Est-ce que c'est des jeux de société, des jeux vidéo ? Est-ce que c'est un mélange un petit peu de tout ça ? Comment ça va se passer ?
Alors on est vraiment sur des jeux de plateau, en lien notamment avec tout ce qui est proposé dans le parcours de l'exposition, hein, puisqu'il y a notamment un jeu de nef à tafle dans l'exposition. Et on est donc sur des jeux vidéo aussi en lien avec le monde mérovingien. Donc vraiment le but c'était d'accompagner et de donner un aspect encore plus ludique, j'ai envie de dire, à l'exposition du monde de Clovis, qui se veut extrêmement ludique, hein, parce que c'est une exposition où le visiteur va concevoir son propre parcours d'exposition. Et là, justement, c'était de tirer profit de cet aspect jeu ludique pour proposer une après-midi au public où il va pouvoir à la fois visiter l'exposition et jouer à des jeux de plateau accompagnés par des associations rémoises qui sont spécialisées dans cette valorisation.
Comment vous les avez choisis du coup, les associations ? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous suite à l'exposition ou ils ont proposé des idées ?
C'est le travail justement de ce qu'on appelle au musée le service des publics, hein, et donc mes collègues qui effectivement sont allés au contact des associations pour voir ce qu'il était possible de proposer, et en fonction effectivement de la thématique qui a été énoncée au départ, ils se sont positionnés effectivement soit sur des jeux vidéo, soit sur des jeux de plateau, en fonction effectivement de leurs possibilités.
Ça fait combien de temps que l'exposition interactive est accessible ?
Alors, le monde de Clovis est visible depuis le mois d'octobre.
Donc, on a eu l'occasion de venir vous voir un petit peu plus tôt pour justement en parler plus en détail. D'ailleurs, on fait une petite promo en passant. Hein, c'est à retrouver en podcast sur le site Radio Primitive. Quel est le recul, du coup, aujourd'hui de cette exposition ? Quel a été l'engouement autour ? Est-ce que les gens ont apprécié ? Il y a des choses à modifier pour l'avenir ?
Alors, c'est une exposition, bien sûr, qui dénote un petit peu hein, par rapport aux expositions qu'on propose actuellement au Musée Saint-Rémy, qui est une exposition effectivement ludique, autour du jeu, autour du gaming dans l'exposition, qui est parfois un peu moins bien comprise qu'une exposition plus classique, mais qui attire un public extrêmement varié, et c'était l'objectif, et notamment un public adolescent, on va dire, ou jeune adulte qui est fort friand de ce genre de propositions et qui vient nous rendre visite régulièrement. Les chiffres sont extrêmement bons, donc on est plutôt content effectivement du retour du public sur cette exposition, mais qui va bien sûr bientôt fermer ses portes, donc faut pas hésiter à venir rapidement nous rendre visite.
C'est ça aussi qui fait la valeur de cette exposition, c'est que ça reste malgré tout éphémère. Et justement, pour l'avenir, est-ce que vous avez envie de recréer quelque chose, une exposition dans ce genre, sur une thématique peut-être différente, mais en tout cas accessible de cette même manière ?
Alors oui, moi, sachant qu'effectivement le monde de Clovis avait cet avantage, j'ai envie de dire, d'avoir déjà pu être testé au préalable hein, au Musée d'archéologie nationale avec qui nous avons travaillé sur ce parcours. Mais effectivement, on se rend compte que dans les politiques actuelles des musées, il faut aussi travailler sur l'aspect jeu, aspect ludique pour attirer un public varié, sachant qu'on ne perd jamais de vue la qualité scientifique du propos qui est tenu dans ces expositions.
Donc on le rappelle, c'est cet après-midi, une grosse après-midi jeu de société donc qui est proposé, enfin jeu en général, on va pas dire que jeu de société, qui vous est proposé. Donc c'est toujours dans le cadre des musées gratuits jusqu'au 31 mars, donc ça veut dire que c'est également gratuit, donc n'hésitez pas cet après-midi à aller y faire un petit tour. Et puis toujours parmi les expositions que j'avais envie de mettre en avant, il y a cette œuvre numérique interactive Kitsune, alors je l'ai bien prononcé cette fois-ci, qui est toujours aussi accessible jusqu'au 4 mai.
Oui, alors c'est une autre proposition autour du jeu que nous avons dans le parcours du musée Saint-Rémy, mais qui est dans un autre espace, hein, qui n'est pas en lien avec le monde de Clovis, qui est dans notre salle militaire actuellement, puisque en fait on a créé, conçu deux nouvelles vitrines depuis le mois d'octobre également, qui présentent des collections japonaise que nous conservons dans nos collections, une collection d'Alfred Gérard. Et donc, on a eu une proposition d'un studio de création numérique qui s'appelle Femme Fatale Studio pour venir tester un produit numérique, donc une animation de type un peu cadre image photo que l'on vient se poser sur le visage et donc avec lequel on interagit. Et donc, le visiteur se transforme en yokai, donc en petit renard. Et on va lui raconter une histoire liée justement aux légendes japonaises.
Donc, une fois de plus aussi, là, le but de cette exposition, c'est peut-être d'accueillir un public qui est différent. On sait que les mangas en ce moment ont forcément beaucoup... sont beaucoup appréciés par les adolescents. Donc j'imagine que c'est pareil vis-à-vis du public, vous avez une agréable surprise par rapport à cette exposition.
Oui, voilà, effectivement le public se prend au jeu. Alors après voilà, on le sait hein, c'est une animation en phase de test, donc l'objectif aussi c'est de voir comment le public réagit et interagit finalement avec ce type de proposition.
Donc ça, c'est pareil, c'est à découvrir jusqu'au 31 mars en version gratuite et puis après jusqu'au 4 mai.
Voilà, exactement, puisque au mois d'avril également, on accueille un certain nombre d'animations autour du mois du Japon. Donc l'animation sera visible jusque début mai.
Et puis vous aurez peut-être l'occasion de nous reparler un petit peu des autres animations donc, qui seront créées pour ce mois du Japon. Là, on va s'intéresser à cette exposition, donc un petit peu plus tard, début octobre, Art de protéger la protection du patrimoine en péril. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette exposition pour nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce qu'on va découvrir en fait ?
Oui, alors j'ai sollicité la délégation au patrimoine de l'armée de terre qui a créé une exposition autour justement de la protection du patrimoine en cas de conflit armé et sur l'histoire un petit peu de cette protection qui se fait notamment dans le cadre de l'anniversaire de la convention de La Haye, qui est la grande convention en fait qui protège le patrimoine en cas de conflit armé, l'objectif étant de ne pas détruire le patrimoine en cas de combat. Alors, ce qui n'est pas forcément toujours
évident
à faire, mais donc la délégation du patrimoine a créé cette exposition et donc il nous paraissait tout à fait pertinent à Reims de pouvoir la proposer également, notamment parce qu'on est dans une année un peu exceptionnelle, dans le cadre du centenaire notamment de l'Art déco, qui s'est posé la question de la reconstruction de la ville à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir un petit peu la réflexion au-delà de la Première Guerre mondiale sur toutes les grandes périodes qui ont touché le XXe siècle et malheureusement le début du XXIe siècle et qui ont vu effectivement une destruction parfois importante du patrimoine au niveau international, notamment lié au conflit. Et donc Reims avait cette logique, cette volonté effectivement de s'interroger. Et donc ce que l'on va faire, c'est présenter des œuvres qui proviennent de nos propres collections en regard en fait des panneaux explicatifs. Et puis l'objectif, c'était aussi de présenter des œuvres que nous n'avions jamais montrées jusqu'à présent au public. Donc il y a ce double objectif, à la fois d'associer des œuvres à des panneaux d'explication, mais aussi de présenter des œuvres montrées pour la première fois, et notamment un certain nombre de nouvelles acquisitions que nous avons fait au niveau du musée Saint-Remy sur cette thématique. Voilà, donc un double enjeu pour le public.
Des acquisitions qui ont été faites justement pour cette exposition, c'est ça ?
Alors qu'on a fait depuis quelques années, mais qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de présenter dans le parcours, puisque effectivement, vous le savez probablement, mais le musée Saint-Remy présente des collections à peu près jusqu'au XVIe siècle actuellement. Or, l'objectif du musée est bien d'ouvrir cette présentation de l'histoire rémoise jusqu'à nos jours. Donc on n'a pas encore pu avancer sur les nouvelles galeries qui proposeront les époques postérieures au XVIe siècle, mais on a déjà préparé effectivement l'acquisition de certaines pièces qui nous paraissaient pertinentes. Et pour certaines, effectivement, on va notamment pouvoir les exploiter dans le cadre de cette exposition temporaire. Et puis également, j'ai sollicité mes collègues, que ce soit du Musée des Beaux-Arts ou de la Bibliothèque Carnegie, pour présenter effectivement des œuvres qui n'avaient jamais été présentées jusqu'à présent au public. Parce que dans les musées, on a souvent beaucoup d'œuvres ou d'objets qui n'ont pas un lien direct avec le parcours, qui sont conservés en réserve, mais qu'on peut sortir à l'occasion, heureusement, d'expositions temporaires.
Et justement, ces expositions-là, on va pouvoir les retrouver dans un musée ou ça va être un parcours dans différents musées ? Comment ça va se passer ? Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver
Alors, cette exposition sera visible au musée Saint-Remy.
Parce qu'on parlait un petit peu plus tôt du musée de la réédition. Au mois d'octobre, il sera donc en travaux, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, à ce moment-là, il sera déjà en travaux, puisqu'effectivement, nous travaillons au renouvellement du parcours de visite du musée de la réédition. Alors qu'il va fermer ses portes à l'issue des commémorations du 80e anniversaire de la reddition, qui est célébrée cette année, début mai. Et donc, à compter du 12 mai, le musée sera fermé pour un an à peu près de travaux et pouvoir ensuite montrer au public un nouveau parcours de visite qui mettra bien sûr toujours en valeur, et surtout d'autant plus avec ce nouveau parcours, cette fameuse salle des cartes, hein, où a été signée la reddition donc le 7 mai 45.
On parlait un petit peu plus tôt du partenariat avec la délégation au patrimoine de l'armée de terre. Est-ce que c'est un partenariat que vous avez exclusivement pour cette période, pour cette exposition, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps et vous vous êtes dit, voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de vraiment enrichir ce partenariat et puis de faire naître finalement quelque chose ensemble ?
Alors pour l'instant, effectivement, c'est un travail que l'on a commencé à mener il y a quelques semaines. Hein, donc on espère bien sûr pouvoir poursuivre au-delà même de cette et cette proposition d'exposition, sachant que les musées militaires ont déjà intégré un certain nombre de réseaux qui dépendent du ministère des Armées, notamment les réseaux sur les sites de mémoire ou autres, qui sont des réseaux informels, j'ai envie de dire, où on se rencontre, où on évoque un certain nombre de problématiques liées à la présentation des collections dans les musées, que raconter dans un musée militaire, comment évoquer la mémoire auprès de notre public. Donc voilà, on fait déjà partie effectivement d'un certain nombre de réflexions. Et c'est tout à fait intéressant pour nous, justement, de pouvoir travailler sur cette thématique-là également.
Et justement, ça va aussi permettre, cette exposition, de tenter de répondre à de nombreuses questions. On le rappelle, hein, art de protéger, la protection du patrimoine en péril, c'est le nom de cette exposition. Parmi les questions qui nous viennent forcément tout de suite à l'esprit, pourquoi est-ce important de protéger les œuvres en temps de conflit ? Est-ce que c'est déjà une petite esquisse de réponse que vous pouvez nous donner aujourd'hui ?
Oui, alors bien sûr, effectivement, c'est toute la problématique de la sauvegarde du patrimoine en cas de conflit armé. On l'a vu hein, sur un certain nombre de conflits dans le monde qui ont vu la destruction d'un certain nombre d'éléments du patrimoine, souvent majeurs, hein, que ce soit dans les conflits armés, dans les conflits religieux ou autres. Ça a été le cas, par exemple, en Ukraine également. Mais effectivement, il est important surtout de se préparer. Même si on espère, bien sûr, le but, c'est de ne jamais aller jusqu'au conflit, mais on se prépare en temps de paix à des risques en temps de guerre. Alors, en France, quand même, on pense et on espère être moins impactés. Malgré tout, on a effectivement un certain nombre de séminaires hein, qu'on nous propose sur cette réflexion d'un plan de sauvegarde en cas de conflit armé. Mais ce sur quoi nous allons principalement travailler, c'est sur la protection des œuvres en cas de sinistre, en fait. Et ça, effectivement, on est plus à même d'être impacté par un incendie, une inondation ou une tempête, par exemple, qu'un conflit armé sur le territoire français.
Et donc là, on parle forcément du territoire français, mais est-ce que parmi les œuvres, il y a des œuvres qu'on va pouvoir voir qui viennent d'autres territoires que la France a décidé, elle, de préserver ?
Alors, non, globalement, effectivement, l'objectif de l'exposition, c'était de se concentrer principalement sur Reims, parce que c'est pas forcément l'objectif, effectivement, de cette exposition. Mais il peut arriver, effectivement, qu'en cas de conflit armé, d'autres pays, enfin des pays, sollicitent effectivement un repli ou une zone de refuge sur le territoire français, même si c'est quand même un peu moins le cas. On essaie quand même de conserver principalement les œuvres à proximité du lieu où elles sont habituellement conservées.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du devoir de protection du patrimoine, il y a forcément aussi quelque part un devoir de mémoire, j'imagine, parce que avant tout, si on souhaite protéger des œuvres, c'est pour que les générations suivantes puissent avoir accès et puis comprendre, c'est ancré vraiment dans l'histoire, quoi.
Oui, clairement, c'est vraiment lié à cette notion de patrimoine, hein, puisqu'un patrimoine, c'est avant tout un héritage, une transmission que l'on se doit de valoriser, de conserver, de protéger pour les générations futures. Donc, il y a toujours cet aspect passé, présent, futur dans toutes nos réflexions. Hein. Donc, c'est vrai qu'on se pose la question en cas de conflit armé ou en cas de sinistre, mais finalement, c'est le principe sur lequel nous nous basons dans nos métiers de la conservation chaque jour, en fait.
Et est-ce qu'il y a quelque chose justement qui peut aider en fait à cette protection des œuvres, quelque chose que les lois peuvent faire ou que même nous, en tant que particuliers, on peut faire pour mettre un petit peu notre pierre à l'édifice, à la protection des œuvres ?
Alors, dans les musées, mais pas que, hein, également dans les bibliothèques, il est demandé notamment aux chefs d'établissement de rédiger ce qu'on appelle des PSBC, dans notre jargon, donc des plans de sauvegarde des biens culturels, qui sont effectivement des plans qui vont préparer une potentielle évacuation d'urgence des œuvres. avec une sélection des quelques œuvres prioritaires qui doivent être évacuées. Alors, c'est un document opérationnel qui est à destination notamment des forces de secours, donc principalement des pompiers, et avec lesquels nous travaillons quand nous mettons en place ce type de document. Donc, j'ai envie de dire, principalement, effectivement, ce sont les gens du métier, en fait, qui vont réfléchir à ce document-là. Et ensuite, effectivement, je pense qu'il est important que chaque citoyen, finalement, se rende responsable lui-même pour se dire que le patrimoine qui nous entoure au quotidien est une chose importante à préserver.
Et est-ce que c'est une exposition, parce que forcément on parle un petit peu de conflits armés, de choses un petit peu dramatiques, mais ça reste quand même une exposition accessible avec les familles, avec les enfants, justement, est-ce que c'est important aussi de faire venir les enfants pour qu'ils prennent conscience un petit peu de l'histoire, voilà.
Oui, alors c'est une exposition qui sera bien sûr accessible à tout type de public, ne serait-ce que pour voir des œuvres qu'on ne voit pas habituellement au musée, puisque je vous disais, effectivement, on aura des présentations d'œuvres pour la première fois dans notre parcours. C'est un aspect très positif, j'ai envie de dire, de la protection du patrimoine. C'est comment on prend en compte cet aspect-là dans cette réflexion autour des conflits armés. L'objectif, c'est d'éviter la destruction, et c'est bien parce qu'il y en a eu au préalable que maintenant, on essaye de faire au mieux pour qu'il n'y en ait plus.
Donc c'est assez intéressant en effet, où cette année où en effet l'art déco est mis en avant à travers les différents musées de la ville de Reims, de s'intéresser finalement à ce qui est la suite logique.
Voilà, et c'est surtout effectivement toute cette question de la reconstruction. Mmh. Comment finalement on prend prétexte et on prend appui sur ce qui s'est passé les années précédentes, les siècles précédents, pour construire une nouvelle réflexion, une nouvelle doctrine de fonctionnement, y compris en période ou en zone de conflit armé.
Et en ce qui concerne, bon là ce sont essentiellement des objets, des collections de Reims, en ce qui concerne la manière de protéger en France, est-ce qu'elle est différente? Est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe ailleurs au niveau de la protection du patrimoine ou...
Alors c'est vrai que la protection du patrimoine, elle est liée à chaque territoire, mais heureusement, j'ai envie de dire, il y a cette valeur universelle de la protection du patrimoine qui fait que globalement, les politiques se ressemblent à peu près toutes, où que l'on soit. Après, tout est question, j'ai envie de dire, de perception du patrimoine. Mais non, l'objectif est justement, c'est tout l'intérêt de ces conventions internationales, notamment la convention de La Haye, c'est qu'elles soient adoptées par un maximum de pays. Alors, bon, malheureusement, la convention de La Haye n'est pas adoptée par l'ensemble des pays au monde, mais quand même, une majorité de pays ont adopté ces différentes conventions. Voilà, ça montre bien effectivement un intérêt très fort, puisque de toute façon, le patrimoine, c'est vraiment cette notion de transmission et de pouvoir poursuivre sur des générations futures l'histoire d'un territoire. Donc voilà, détruire ce patrimoine, c'est aussi vouloir parfois gommer finalement l'histoire d'un peuple présent sur place. Donc on est vraiment dans cette notion, cette volonté de transmission et donc de protection au maximum du patrimoine dans les pays où qu'ils se trouvent sur la planète.
Donc là, en tout cas, chez nous, à découvrir à partir du début du mois d'octobre, à découvrir jusqu'en 2026. Voilà, donc ça s'appelle « L'art de protéger la protection du patrimoine en péril », donc notamment du côté du musée Saint-Rémy. Et puis, on le rappelle aussi, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais si vous venez tout juste d'arriver cet après-midi, il y a pas mal de choses à découvrir, toujours du côté du musée Saint-Rémy, avec Le Monde de Clovis, l'après-midi jeu. Donc ça reste gratuit jusqu'au 31 mars, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis toujours cette exposition, cette œuvre numérique interactive, Katsune, qui est Kitsune, je vais arriver à le prononcer correctement, une fois sur deux ça passe, qui est aussi à découvrir donc jusqu'au 4 mai. Et bien en tout cas, merci Bénédicte Arnu d'avoir répondu à toutes mes petites questions.
Merci à vous.
Et puis je vous souhaite une excellente journée.
Merci également.
À bientôt.
Au revoir.